Alors, Hubert Tester est ministre conseiller et chef de la mission économique de Pékin. Je l'ai rencontré cet automne à Pékin donc, dans le très beau bâtiment tout bleu en plein cœur de la ville, qui abrite les bureaux de la mission économique de Pékin, un lieu où nous avons abordé entre autres l'économie de la Chine en ces temps de crise internationale, nos échanges commerciaux et l'implantation des entreprises françaises en Chine. Hubert Tester, bonjour.
Bonjour.
La crise financière actuelle change-t-elle la donne en Chine ?
Alors, elle commence à la changer. C'est-à-dire que la Chine était relativement à l'abri de la crise dans une phase initiale, puisque les banques chinoises sont peu exposées à l'international. Mais elle est en train d'être touchée maintenant par le choc sur l'économie réelle. Donc on commence à voir ralentir l'économie chinoise.
Comment se comportent les bourses chinoises justement dans cette tourmente ?
Alors, les bourses chinoises avaient commencé à chuter avant, en fait, le choc international, puisqu'on a connu ici un phénomène de bulle boursière qui a duré pendant 2 ans et qui s'était renversé à la fin de l'année dernière. Donc, la chute des bourses chinoises a démarré plus tôt et elle a été globalement plus forte que dans le reste du monde, puisque la bourse de Shanghai, par exemple, a perdu 70% de sa valeur depuis le début de l'année. Donc, on est actuellement à un niveau très bas sur le plan boursier.
Est-ce que le yuan résiste bien à la crise ?
Alors, le yuan résiste très bien. En réalité, la question pour le yuan, n'est pas de savoir si le yuan va se déprécier, comme d'autres monnaies asiatiques, mais s'il va s'apprécier, puisque la Chine est dans une situation d'excédent massif de balance des paiements. Donc, logiquement, le yuan devrait s'apprécier, mais comme il est sous contrôle, comme il y a ici un contrôle d'échange étroit, les autorités veulent actuellement assurer une stabilité de la relation yuan-dollar. Donc on observe que depuis le début de l'été, le yuan colle pratiquement au dollar. Et comme le dollar remonte depuis un mois vis-à-vis de l'euro, le yuan s'est apprécié brusquement vis-à-vis de l'euro d'environ 20%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nos exportateurs.
Alors donc vous pensez que cet équilibre yuan-dollar et euro, comment il va s'équilibrer dans les prochains mois et dans les prochaines années.
Il n'y a pas vraiment d'équilibre dans la mesure où, comme je le disais, le yuan est contrôlé par les autorités. Donc il y a une relation yuan-dollar qui est sous surveillance et pour l'instant la politique des autorités est de garder une stabilité. Donc la vraie question c'est comment est-ce que l'euro va évoluer par rapport au dollar. Bon, actuellement il a fortement chuté. Est-ce que c'est durable? Est-ce que l'euro ne risque pas à terme de remonter à mesure que s'approfondira la crise américaine? Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, il est difficile de faire des prévisions sur la relation euro-yuan, puisque ce qui compte en réalité, c'est le lien euro-dollar.
Alors la croissance chinoise en 2008 est passée au-dessous de la barre des 10%. Quelles en sont les conséquences tout d'abord pour la Chine et ensuite pour l'Europe et la France?
Alors effectivement, au troisième trimestre 2008, la croissance est tombée à 9%, ce qui est encore quand même très confortable par rapport aux pays occidentaux. Sur l'année, on devrait se trouver un petit peu en dessous de 10%. La question principale, c'est quel sera le niveau de la croissance chinoise l'année prochaine. Dans les prévisions actuelles, il y a beaucoup de variations, en fait, hein, des prévisions des économistes. Les pessimistes voient la croissance autour de 6-7%. Les plus optimistes la voient à 8-9%. Le gouvernement chinois lui-même se fixe manifestement un objectif de croissance d'au moins 8% pour l'année prochaine. Donc on est de toute façon dans une période de ralentissement assez sensible. Alors les conséquences pour la Chine sont déjà sensibles aujourd'hui puisqu'on commence à voir se multiplier des faillites d'entreprises, le niveau du chômage remonte. Donc il y a une forte préoccupation des autorités et il faut s'attendre à un plan de relance massif qui a commencé déjà à être annoncé mais qui devrait être complété, je pense, dans les prochaines semaines. Donc d'ici la fin de l'année, on peut penser que les autorités chinoises relanceront la machine. Elles en ont les moyens puisqu'elles ont un excédent budgétaire, ce qui est rare dans le monde aujourd'hui, et elles ont également des leviers monétaires importants qu'elles peuvent faire jouer. Donc elles ont une capacité à réagir qui est beaucoup plus importante que celle des pays occidentaux aujourd'hui. Alors les conséquences pour nous de ce ralentissement chinois sont quand même relativement limitées puisque les exportations vers la Chine représentent une part assez faible de nos exportations globales, un peu plus de 2% aujourd'hui. On observe un début de ralentissement de nos exportations vers la Chine, mais qui n'est pas encore très signifiant, puisqu'on reste en positif. Donc la Chine continue à acheter davantage de produits français pour le moment. Là encore, il va falloir voir comment les choses évoluent dans les prochains mois.
Il y aura évidemment des conséquences sociales en Chine, vous pensez?
Bien sûr, bon, comme tout ralentissement économique a des conséquences sociales. Dans le cas de la Chine, la région qui est la plus touchée aujourd'hui est le sud, le Guangdong, donc la région de Canton, qui est une région où étaient situées la plupart des usines de production d'industrie de main-d'œuvre, donc tout ce qui est textile, jouets, habillements, chaussures. Et là, les dégâts sont relativement importants. Donc on parle de fermeture de milliers d'usines et je crois que la Chambre de commerce de Hong Kong annonçait sur l'année 2008-2009 la perte de 2 millions d'emplois, ce qui est quand même considérable. Alors ceci dit, il y a d'autres industries qui se développent, notamment dans des secteurs plus high-tech, donc il y aura des effets de substitution, il va y avoir un changement de la composition industrielle de la base exportatrice chinoise. Donc il y aura des pertes d'emplois, mais il y aura aussi des créations d'emplois, notamment si le gouvernement, évidemment, fait un plan de relance massif.
Alors, nos échanges commerciaux ont-ils souffert de la mauvaise image française en Chine après les événements de mars 2008 au Tibet ?
Alors, l'impact a été surtout un impact d'image, hein, c'est-à-dire que l'image française qui était excellente, puisque plus de 70% des Chinois avaient une opinion positive de la France, en quelques mois, on est tombé à 30%. Donc il y a eu un choc d'image assez fort. Donc ce choc d'image a pu avoir un impact sur certains achats de biens de consommation, éventuellement de voitures, des choses comme ça. On n'a pas trouvé, ceci dit, d'impact vraiment très significatif. C'est-à-dire que si on interroge les entreprises, elles ne peuvent pas dire qu'il y a eu un trou dans leur chiffre d'affaires qui soit lié à ces événements. La seule entreprise qui a été vraiment touchée directement, c'est Carrefour, qui effectivement pendant quelques mois a vraiment souffert. Mais on est revenu maintenant à la situation antérieure, donc on peut considérer que cette période de trou d'air est maintenant derrière nous.
Le creux de la vague est passé. Alors justement, quelle est aujourd'hui, à la lumière des événements financiers récents dont on a parlé tout à l'heure, la politique de développement économique de la France en Chine ?
Alors, bon, la politique, c'est peut-être un bien grand mot, puisque c'est surtout les entreprises qui développent leurs affaires ici. Le gouvernement, lui, établit des objectifs généraux dans le cadre de ce qu'on appelle le partenariat stratégique avec la Chine. Donc, on attache une importance particulière à des secteurs clés, comme par exemple l'aéronautique, l'énergie nucléaire, le transport ferroviaire notamment, mais aussi automobile, les télécommunications, l'environnement, l'agroalimentaire ou les services financiers. Donc dans tous ces secteurs, on suit de près l'évolution de la situation et on soutient les projets français chaque fois qu'il y a des projets qui nécessitent un accord des autorités chinoises. Donc les entreprises elles-mêmes, je dirais que ce qui est caractéristique, c'est que le développement des activités en Chine, c'est plus l'investissement que l'exportation. Bon, l'exportation existe, bien sûr, mais dans un pays où les prix sont très bas, où la compétition est extrêmement dure, la seule façon de se développer à grande échelle, c'est quand même d'être présent industriellement. Et c'est en gros le pari que font nos entreprises. Donc ce qui compte pour elles, c'est ça, et ce qui est plutôt réconfortant en ce moment, c'est qu'on constate que les projets d'investissement français ne s'arrêtent pas. Bien au contraire, on a une multiplication de projets d'une certaine ampleur dans des domaines assez variés. Alors ça peut être, encore une fois, l'énergie, énergie nucléaire, pétrole. Ça peut être aussi l'industrie lourde, donc le ciment par exemple, la Lafarge a des grands projets en Chine en ce moment, la construction Saint-Gobain, et puis ça touche aussi bien sûr les biens de consommation. La crise va un peu freiner le mouvement, mais on a quand même un mouvement de fond qui est lancé pour de nombreuses années, parce que le consommateur chinois est en train d'apparaître et que ce consommateur aime les produits de marque. Donc là, nous sommes bien placés pour nous développer en Chine.
Quelle est la place des PME dans ce paysage ?
Alors, la place des PME était assez faible au début de la décennie. On avait en gros 3 000 entreprises exportatrices françaises sur la Chine. On est aujourd'hui à 7 000, donc il y a eu quand même 4 000 entreprises supplémentaires qui sont venues sur le marché. En termes d'implantation, la quasi-totalité des nouvelles implantations sont faites par des PME sur la Chine. Et vous savez que la Chambre de commerce française en Chine enregistre maintenant 1200 membres, donc qui sont, et tous les nouveaux membres sont des PME. Donc on a un mouvement assez fort, à la fois d'export et d'implantation, qui est un mouvement de PME depuis une demi-douzaine d'années, dans des secteurs extrêmement variés, puisque ça touche les biens de consommation, ça touche les produits industriels, ça touche aussi beaucoup les services, de plus en plus de domaines des services. Et je crois que c'est un mouvement qui va se poursuivre et qui est assez différent de ce qui se passe à l'échelle globale, puisque vous savez que en France actuellement, le nombre d'exportateurs diminue. La Chine, on a plus que doublé le nombre d'exportateurs, donc on est dans un mouvement qui est clairement beaucoup plus porteur que la tendance générale.
Alors le mode d'emploi de l'investissement en Chine pour un entrepreneur français?
Le mode d'emploi, je crois qu'il faut faire une étude assez approfondie, parce que la Chine n'est pas simplement un pays, c'est un continent. Vous avez ici une trentaine de provinces qui ont la taille de pays européens. Donc il faut déjà s'interroger sur le point d'entrée. Par où est-ce qu'on commence à aborder le marché chinois? Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on est à Shanghai, on va pouvoir couvrir toute la Chine. Même chose pour Pékin ou pour Canton. Donc il y a un choix de point d'entrée. Il y a aussi une question de base qui est de savoir si on attaque la Chine avec un partenaire chinois ou sans partenaire. Et là, je n'ai pas de réponse claire à apporter. Ça dépend, je dirais, des situations. Ceux qui peuvent attaquer le marché seul le font de plus en plus, c'est-à-dire avec des filiales à 100%. Mais dans un certain nombre de cas, il continue à être utile d'avoir un partenaire chinois qui vous ouvre des portes, qui vous crée des réseaux de distribution. Donc je dirais que les cas de figure sont assez variables. Mais ça nécessite une analyse assez approfondie. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas... parce qu'on a trouvé un Chinois sympathique, se lancer immédiatement bille en tête sans avoir fait d'études de marché. On est dans un pays compliqué, il y a des pièges, il y a des gens dont le comportement n'est pas toujours honnête, comme partout. Le fait qu'on soit en plus dans un pays où il faut pratiquer une langue difficile... avec des codes culturels différents, fait qu'on a besoin de prendre un peu son temps et de faire une analyse approfondie en revenant plusieurs fois. Il ne faut pas se contenter d'un ou deux déplacements pour lancer des affaires en Chine.
Quels sont nos atouts sur le marché chinois?
Alors, nos atouts sont ceux des Européens, mais avec une touche française. On a des points très forts qui correspondent bien aux demandes chinoises, notamment dans tout ce qui est infrastructure. Donc, infrastructure de transport, transport terrestre, transport aéronautique, tout ce qui est du domaine de l'énergie. Donc, sur le plan sectoriel, ce que nous pouvons offrir correspond assez bien aux besoins chinois. Et je signale d'ailleurs que la crise va donner des opportunités supplémentaires, puisque le plan de relance massif que va faire le gouvernement sera un plan de relance sur les infrastructures et sur l'environnement. Donc toutes les entreprises qui ont une offre dans ces domaines-là auront des opportunités supplémentaires grâce à la crise. Alors il y a aussi bien sûr les biens de consommation. Là-dessus, les avantages français sont connus. Le Made in France est très apprécié. Donc on a là un avantage à faire jouer, bien sûr.
La répartition géographique de nos entreprises, plus au nord, au sud, au centre?
La répartition géographique est basée sur la zone côtière pour l'essentiel, comme beaucoup d'investisseurs étrangers. Alors c'est d'abord Shanghai qui vient en premier avec près de la moitié des implantations. En deuxième vient Pékin avec environ 20%. Puis le Guangdong, donc Canton, environ 15%. Et la quatrième région est Wuhan, le Hubei. Donc Wuhan, où se trouvent actuellement Peugeot, Citroën, également Alstom et d'autres gros investisseurs français, et qui est une région où nous avons maintenant plus d'une soixantaine d'implantations françaises. En cinquième vient Chengdu, avec une trentaine d'implantations, et puis ensuite le reste un peu plus dispersé dans les autres provinces chinoises. Mais ce qui est caractéristique aujourd'hui, c'est qu'on commence à voir se développer de grosses implantations françaises en dehors de la zone côtière. Donc là, on est en ligne, je dirais, avec ce que souhaitent les autorités chinoises, c'est-à-dire le développement du centre et de l'ouest, ou du nord-est. Et on est en ligne aussi avec une évolution du système productif chinois, puisque la zone côtière est devenue un petit peu encombrée, chère, et on voit maintenant de plus en plus se délocaliser des entreprises ou des usines à partir de la côte vers l'intérieur. Et c'est ce mouvement que les entreprises françaises suivent aujourd'hui.
Donc nous jouons aussi un rôle de pionnier avec eux.
Alors pionnier, c'est peut-être beaucoup dire, mais je crois que dans le cas de Wuhan, effectivement, les Français sont relativement pionniers, puisque nous sommes à peu près les deuxièmes ou troisièmes investisseurs étrangers dans cette province. Et nous avons donc une très forte visibilité, beaucoup plus forte que sur Shanghai ou sur la zone côtière en général. Alors on peut espérer que ce soit le même cas dans d'autres nouvelles provinces chinoises, et nous poussons, nous, beaucoup à monter des missions de prospection dans cette Chine de l'intérieur qui sera le nouvel horizon de la croissance chinoise.
Et peut-être la Chine de l'Ouest ?
Tout à fait, la Chine de l'Ouest aussi. Alors le Sichuan, c'est déjà l'Ouest. Hein, et nous avons organisé d'ailleurs, Madame Idrak, la ministre du Commerce extérieur, est venue le mois dernier en Chine. Elle a fait une visite d'une semaine et elle s'est rendue à Chengdu pour notamment à l'occasion d'un séminaire européen sur la reconstruction et le développement du Sichuan. Et les entreprises françaises étaient extrêmement présentes à ce séminaire. Il y a un programme de reconstruction dans le Sichuan de 100 milliards d'euros sur les années qui viennent. Donc là aussi, des opportunités intéressantes pour nos entreprises.
Donc quel est l'avenir de nos échanges commerciaux en Chine et plus généralement dans la zone Asie-Pacifique ?
Alors, je crois qu'il faut parler des échanges et peut-être aussi des investissements, hein, comme je le disais tout à l'heure, puisque ce sont des choses très complémentaires. Sur les échanges, bon, nous avons évidemment un déséquilibre avec la Chine qui est très important aujourd'hui, puisque nous importons près de 30 milliards d'euros de produits chinois et nous en exportons en gros une dizaine de milliards. Ceci dit, ce déficit avec la Chine, s'est développé par compensation, disons par substitution, d'une réduction de notre déficit avec d'autres pays asiatiques. Donc en fait, la Chine devient un hub des exportations asiatiques, et c'est parce qu'elle est un hub que nous avons un déficit considérable avec la Chine. Donc il faut raisonner plus globalement, il faut regarder l'Asie pour évaluer comment se situent nos échanges avec cette zone. Alors, le potentiel de nos exportations reste très important. Je crois qu'on est sur des rythmes de croissance de l'ordre de 10-15% par an. Et à mon avis, ça va continuer pour longtemps. La Chine est déjà notre premier pays pour les exportations françaises en Asie, assez loin devant le Japon et les autres. Et ça va continuer. Donc là-dessus, je crois qu'il n'y a pas... La crise ne peut que ralentir provisoirement un mouvement qui va rester fort sur les 10-15 ans qui viennent. Sur les investissements, même chose, je crois qu'on est très loin d'avoir fait le plein des investissements français en Chine. Il y a encore des secteurs qui sont relativement protégés actuellement en Chine par le système réglementaire et par l'attitude des autorités. Donc par exemple dans les télécoms, dans l'énergie, on a encore beaucoup de choses qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas actuellement. Dans les biens de consommation, il y a également un potentiel de croissance de nos investissements qui est considérable. Donc moi, je suis assez optimiste et je pense que ça va aussi se traduire par plus d'investissements chinois en France. On commence à voir ce mouvement se développer. La crise peut évidemment conduire des entreprises chinoises à racheter des entreprises françaises. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur nécessairement de ce mouvement. On avait connu le même mouvement avec les Japonais, avec les Coréens dans le passé. Il peut y avoir bien sûr des situations un petit peu difficiles, mais dans la plupart des cas, jusqu'à présent, ça se passe bien. Pour prendre un exemple ou deux, Blue Star qui a racheté les activités silicone de Rodia et Adiceo. Donc Blue Star a 2500 employés en France. À ce stade, ça fait maintenant 3 ans que ces investissements ont eu lieu, les choses se passent bien, L'emploi se développe en France dans les activités de Blue Star, et c'est une entreprise qui a un fort potentiel de développement. Donc c'est un investissement qu'on peut considérer comme réussi. Autre exemple intéressant, NFM, qui est un tunnelier français, donc une entreprise technologique de grande qualité, mais qui était en dépôt de bilan, a été racheté à 70% par une entreprise chinoise du nord, de Shenyang. Nous avons visité l'usine de cette entreprise avec Madame Hydrac il y a 15 jours, et on a pu constater que NFM revivait, puisque non seulement l'emploi a été préservé en France, mais du fait de la demande chinoise qui est énorme en termes d'infrastructure, la demande de tunneliers a explosé, et actuellement on embauche chez NFM, on a une centaine d'ingénieurs supplémentaires qui ont rejoint l'entreprise depuis un an. Voilà donc des exemples intéressants, si vous voulez, d'investissements chinois en France qui permettent de développer aussi notre relation avec la Chine.
Donc un peu les Chinois au secours de notre économie.
Oui, enfin, il faut peut-être pas exagérer. Je crois qu'il s'agit pas pour les Chinois de venir au secours de notre économie, mais il s'agit de développer une interdépendance qui commence à être relativement importante. Et je crois que c'est l'intérêt des deux pays. Donc, il n'y a pas un pays qui vient sauver l'autre, mais je crois qu'il y a un intérêt bien compris des deux côtés. Bon, nous avons des technologies, nous avons des savoir-faire, nous avons des marques. Nous avons quand même pas mal d'atouts qui intéressent les Chinois. Eux ont un marché immense, ont une volonté de se développer, ont des moyens financiers importants. Donc la combinaison des deux peut être payante. Donc c'est plutôt comme ça que je le présenterai.
Ah, donc on est fait pour s'entendre. Hubert Testard, merci. Alors nous étions donc en compagnie de Hubert Testard, ministre conseiller et chef de la mission économique de Pékin. Alors on enchaîne peut-être sur quelques informations économiques. Un titre des Échos d'aujourd'hui, par exemple, qui nous annonce que la Chine va peut-être connaître sa plus faible croissance économique en 20 ans, c'est-à-dire moins de 8%. On a entendu tout à l'heure Hubert Testard dire que justement en dessous de 8%, ça pouvait poser quelques problèmes. Il y a aussi une dépêche AFP glanée sur le site internet de Aujourd'hui la Chine. C'était une dépêche du 1er décembre qui nous rappelait que pour le président chinois Hu Jintao, la Chine est victime de la crise mondiale et dont les conséquences sur le pays continuent de se renforcer. Le président a estimé que l'économie chinoise est en train de perdre son avantage concurrentiel en raison de la crise financière mondiale, et ça c'est important évidemment, ça renverse complètement l'équilibre mondial. En octobre 2008, la hausse des exportations chinoises a ralenti à 19,2% contre 21,5% en septembre. Ça va quand même très vite en un mois. La crise financière mondiale continue de s'étendre, les conditions extérieures auxquelles doit faire face notre économie deviennent plus compliquées, a déclaré Hu Jintao. L'impact de la crise financière mondiale sur l'économie chinoise continue de se renforcer. La croissance du PIB chinois a ralenti d'ailleurs à 9% au troisième trimestre. Et là, on disait ça le 1er décembre. Et bien déjà, le 17 décembre, on est à moins de 8%. Donc les prévisions vont très vite. Toujours au chapitre économie, je vous rappelle que la Chine célèbre ce mois-ci, en décembre 2008, les 30 ans d'ouverture économique. Et puis, une petite nouvelle importante. La Chine lance sa première voiture hybride. En ces temps d'écologie à tout va, c'est peut-être intéressant. Elle s'appelle F3DM et elle est commercialisée depuis lundi de cette semaine. Et c'est Bid Auto qui l'a construite. Cette société qui est à Shenzhen est détenue à 9,9% par Warren Buffett. Ça, c'est pas mal à savoir aussi. Donc les États-Unis ont presque 10% de cette entreprise. Et cette entreprise a l'intention d'ici à 2010 de conquérir l'Amérique et le marché des autos à énergie renouvelable. Voilà pour les petites nouvelles économiques. Et maintenant, nous en sommes à la pause musicale et tout de suite après la musique, nous retrouverons Lin-Ying Li, Edith Henry et Lucien Antut.
Yeah. 句话语都让我心跳很快很快，每个思索每个欲望全被你占据，很慢很慢，无法平静，不想透露，因为爱你快乐很久很久。情愿醉死在梦里，当一切都变得无力，情愿为你而美丽，当你呼唤我的名字，情愿默默地隐藏，当它只是一个错误，情愿很久的以后，当一切都被时间冲淡。一个笑容一句话语都让我心跳很快很快，每个思索每个欲望全被你占据，很慢很慢，无法平静，不想透露，因为爱你快乐很久很久。情愿醉死在梦里，当一切
Bruit de Chine sur le 106.6 de Radio Campus jusqu'à 13h. Alors nous sommes en compagnie dans le studio de Lin Ying Li, Edith Henry et Lucien Antut qui assurera la traduction française de Lin Ying Li. Alors Lin Ying Li est peintre et pas photographe d'ailleurs, on m'a signalé tout à l'heure, c'est une erreur, moi je suis sûre qu'elle fait de la photo de temps en temps, mais en tout cas c'est pas son travail principal. Elle vit et travaille à Pékin et elle est actuellement en résidence à la ferme d'en haut à Villeneuve-d'Ascq à l'invitation de l'association La Pluie d'Oiseaux. Edith Henry a cofondé cette association et c'est elle qui a invité en résidence Lin Ying Li à l'occasion de la seconde édition de Passerelle des Arts. Alors, on va peut-être commencer par Edith Henry pour poser le projet. Comment est né ce projet d'invitation de Lin Ying à Villeneuve-d'Ascq?
C'est tout un enchaînement, toute une histoire. La Pluie d'Oiseaux donc, existe depuis 14 ans. Elle est née de la rencontre d'artistes de différentes cultures. Et donc, moi, personnellement, j'avais un échange avec la Chine déjà depuis une dizaine d'années. Et en 98, j'y suis allée pour la première fois, aidée par l'association La Pluie d'Oiseaux. Et depuis ce temps-là, on a des échanges très réguliers avec un village d'artistes, Zhongzhuang, qui est dans la banlieue de Pékin. Donc on a invité comme ça d'autres artistes, il y a eu Lao Dan et Van Schuren en 2001, il y a eu en 2004 avec le centre d'art Yiling, Lingfei et Mahan. Entre deux nous y sommes allés, entre autres en 2005 on a organisé avec une galerie de ce village d'artistes, un village à la taille chinoise. Hein, donc
C'est-à-dire combien de milliers d'habitants?
Alors, en nombre d'habitants, je ne sais pas, mais en nombre d'artistes, actuellement, ils sont 3 ou 4 000 artistes.
Non, c'est quand même pas mal, oui.
Donc, voilà, bon, avant, ils étaient un peu moins nombreux, mais ils se regroupent de plus en plus dans ce village où il y a maintenant énormément d'ateliers, des musées, des galeries à n'en plus finir. Et donc, on y va, on invite des artistes, on monte des projets ensemble. Et la ferme d'en haut avait proposé qu'on fasse notre passerelle des arts, donc il y a la deuxième édition, la première a été à Roubaix l'année dernière.
À la piscine, oui.
Qui était axée autour d'une exposition de la collection de la donation à la piscine. Et là, on avait invité des artistes kurdes. Cette fois-ci, comme la ferme d'en haut a la particularité de pouvoir à la fois offrir des hébergements où trois personnes peuvent loger, des ateliers, un espace d'expo, de spectacle, etc. Donc on a eu envie d'inviter trois artistes de nationalités différentes. D'où le choix d'un artiste ou une, mais on avait vraiment envie que ce soit une femme cette fois-ci, chinoise, kurde, parce que de l'histoire de l'association aussi, on est très très lié au Kurdistan, et ivoirien, parce qu'il y a quelques années, on a eu aussi l'occasion d'entamer des relations avec la Côte d'Ivoire, qui ont eu différentes empêchements entre-temps, ça on en a parlé dans une autre émission. Et donc pour ça, en mois d'avril, je suis allée à Zhongzhuang, pour rencontrer des artistes et vraiment dans l'idée de cette fois-ci rencontrer des artistes femmes.
Voilà, et donc vous avez été séduite par le travail de Lin Ying, et voilà que maintenant Lin Ying est chez nous. Alors Lin Ying, quel a été votre parcours d'artiste en Chine ? Alors Lucien peut-être.
Lin Zaya dans la Chine, la situation d'art est comment ?
我自己的情况非常简单，现在就是我的工作在辽宁大学，前一段时间嘛，身体不太好，然后呢休息一段时间就到松庄，然后自己进行自己的艺术创作，现在呢就是每天呢工作将近有上午几个小时，下午几个小时，就是这样的，每天在画画，参加一些展览，很简单的。
Alors en ce moment, elle a enseigné à l'université de Liaoning, dans le nord-est de la Chine. Et comme elle n'a pas une très bonne santé, elle travaille le matin, elle se repose un peu l'après-midi.
Elle
a commencé vers très tôt, vers une dizaine d'années, elle a commencé à peindre.
D'accord, elle a commencé par la peinture. Et qu'est-ce qui a décidé de sa vocation d'artiste ?
Je me suis dit, il y a tant d'artiste. Ça s'est décidé au cours de son parcours. Elle n'a pas vraiment décidé d'elle-même comme ça. C'est venu par ses relations. Toujours été en relation avec des artistes. Et donc c'est venu plus ou moins naturellement.
Naturellement, très bien. Alors, elle vit dans un village d'artistes, comme l'a dit Edith tout à l'heure, à Zhongzhuang. Pourquoi vivre dans un village et quel est l'intérêt de vivre dans un village plutôt que seul, comme chez nous, et quelle est la particularité de ces villages ?
那为什么决定在那边住，有什么特色？这个那个是艺术家的聚集地，好多人都在那儿，在那儿呢，最主要的是大家能互相学习，再一个呢，能展示自己的作品的机会非常多。然后呢，还有一个问题，就是说我的孩子在北京上大学，然后呢，对孩子也是有一个关照。
Alors il y a deux raisons. D'abord parce que avoir beaucoup d'artistes comme ça, ça permet d'apprendre mutuellement, d'avoir de bonnes relations et puis beaucoup de possibilités de réaliser ses œuvres. Et en plus, un autre avantage, c'est que ses enfants sont à l'université à Pékin, donc ça la rapproche.
Oui, c'est vrai que c'est plus près que Liaoning, le nom de la ville que j'arrive pas à prononcer, mais qui est quand même pas tout près de Pékin. Alors, est-ce qu'elle pourrait nous expliquer en quoi consiste son travail de plasticienne ?
Ni kei di shi qia ni ni xian zai de de yi shu de gong de gong zuo shi zenme yang.
现在的工作。
现在的作品。
现在作品还可以吧，我可以说我的作品从2000年的时候，就是台湾一个说卡画廊就是一直在给我做代理，还有一个上海的叫华氏画廊，今年最重要的就是说参加了几个最重要的展览，就是在宋庄新建了一个最大的纽建目，叫上上国际艺术展第一届的，然后我有幸能把自己的作品，这个是很严格的，因为参展的有50多个国家的艺术家，很不容易的，我的作品入选了，今年是这也是一件让我最值得高兴的一件事情。 OK
alors il y a plusieurs expositions depuis quelques années, donc il y en a une à Taïwan, une à Shanghai, et puis cette année elle a une exposition internationale organisée avec ce village d'artistes. Et bien sûr, là, ce séjour ici, pour lequel elle est très contente.
Alors, les expositions, c'est bien, mais moi, je voudrais qu'elle dise, qu'elle explique juste en quoi consiste son travail. Qu'est-ce qu'on voit dans une exposition de Lin Yingli ?
Ta xiang, ni jie shi xia ni de zuo pin, shi me yang de zuo pin.
我的作品。我作品种类算是几乎就是这个很难定位，算是抽象吧，抽象就是画我自己喜欢的画这个要是归类的话还归抽象作品。
对， en fait elle suit un peu son inspiration, ce qu'elle a envie de dessiner au moment où elle fait une œuvre.
Donc elle dessine déjà, ça c'est déjà un premier point parce que là pour l'instant on se demande ce qu'elle fait, donc c'est de la peinture, c'est pas des installations, donc déjà. Alors Edith, justement, peut-être qu'Edith va pouvoir expliquer, puisque le travail de Lin Yingli vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce travail?
C'est plus que de la peinture, et pas seulement. En fait, j'ai d'abord découvert une de ses œuvres exposées avant de la connaître elle. Je suis allée voir dans une exposition où il y avait beaucoup de femmes artistes qui exposaient. Ouais, c'était autour du mois de mars. Donc j'avais repéré un certain nombre d'artistes, dont son travail. Et son travail, ce qui m'a d'abord marqué, c'était un énorme tas de fraises tricotées. Et tout un ensemble d'œuvres presque abstraites, mais dans laquelle on pouvait vraiment voyager et qui devenaient des paysages fantastiques. Beaucoup dans la matière, dans des subtilités de couleurs, de superpositions. Mais ma première accroche a été vraiment cet ensemble de fraises tricotées, et juste au moment où ici on parlait de l'invasion des fraises chinoises, et je trouve ça pouvait être très drôle de faire venir des fraises chinoises.
Oui, donc elle a un travail tout à fait multiple, elle peint, elle dessine, elle tricote. Bon, le coup du tricot, c'est vrai que c'est assez amusant parce qu'il y a peu d'artistes qui utilisent cette pratique. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu décalé, je les ai vus, les fraises, à la ferme d'en haut. Mais en même temps, bon, c'est pas, ça ne résume pas tout son travail, mais on sent qu'elle a une grande liberté, visiblement, par rapport au travail. Et moi, j'ai eu le sentiment qu'en Chine, justement, les artistes n'étaient pas aussi cloisonnés que chez nous. Ils se laissent la liberté de créer avec le médium du moment. Comme elle dit, par exemple, voilà, je fais ce que je veux quand je veux, c'est un petit peu ça. Et alors que chez nous, les gens sont plus spécialisés dans des techniques. J'ai senti qu'il y avait un petit peu ça en Chine. Bon, en tout cas, Lin Ying a passé quelques jours à Paris là, avec vous. Et moi, j'avais envie de savoir ce qu'elle pensait de Paris.
Je vais vous demander, vous pensez de Paris, comment est-ce que vous avez senti de Paris? Vous avez senti de Paris, comment est-ce que vous avez senti de
Paris?
Paris, c'est très
bien. 比我想象的中还要好，因为我 就是卢浮宫，就是很早很早以前就是期待的一个展，一个大的一个展览。然后呢，有幸这次应那个里尔艺术家那个鸟语协会 AD 的邀请，能亲自造访到巴黎卢浮宫。然后呢，我看到了从小我就是一直期待的，就是一个叫米勒的一个艺术家。当我看到他的作品的时候，我感动的，几乎是热泪盈眶。OK，
嗯。Elle a beaucoup apprécié surtout les musées. Ça faisait très longtemps qu'elle voulait aller faire un tour au Louvre. Donc elle est très contente qu'Enid ait pu l'emmener là-bas. Et il y avait un artiste qu'elle voulait absolument, dont elle voulait absolument voir les œuvres en vrai, qui s'appelle Miller.
Millet.
Oui.
Jean-François Millet, je pense. Oui.
Oui.
Alors, est-ce qu'elle sent que son passage en France changera quelque chose à son travail une fois qu'elle sera rentrée en Chine?
Je pense que si la vie est faite, je pense que l'Yi Shu va changer un peu. Je
pense que Paris, je pense que dans l'Yi Shu, ça va nous donner beaucoup de choses. Je pense qu'il va changer.
Elle pense que oui, son passage à Paris et en France va apporter une influence supplémentaire à son œuvre.
Bon, bah alors on attendra la prochaine exposition à Pékin peut-être pour savoir à quoi ressemblera l'influence française sur son travail. Lin Yingli et Edith Henry, merci. Merci aussi à Lucien Antut pour la traduction. Et tout de suite, après la musique, nous serons avec Fanchi Liu. De Chine sur Radio Campus 106.6 jusqu'à 13h. Fanchi Liu est metteur en scène, diplômé de l'Institut d'art dramatique de Shanghai et titulaire d'un master métier de la culture à l'université de Lille 3. Il a dans ses cartons pour 2009 un projet théâtral franco-chinois Kung Fu Clown. Alors Fanchi Liu, vous avez étudié à l'Institut d'art dramatique de Shanghai. Comment se passent les études dans une école de théâtre en Chine? Qu'est-ce qu'on apprend?
Cet institut, c'est le plus célèbre institut au Chine. C'est un 12e institut de l'art dramatique. Et il y a aussi une institut à Pékin. C'est en même spécialité. Et dans cette spécialité, comme metteur en scène, ça a besoin de diversité de capacités par rapport au niveau de écriture de scénario ou la création de décors de scènes et aussi les techniques d'acteurs. Mais le plus important, c'est le pensée de mettre en scène. Comment organisé un groupe pour créer une pièce de théâtre. C'est comme ça. C'est pendant 4 ans, on prend beaucoup de choses.
Ah d'accord, donc on apprend finalement tout du théâtre, c'est-à-dire à jouer, à concevoir, mettre en scène.
Oui, et l'éclairage, le costume.
Ah oui, tout est, c'est vraiment une formation
c'est
globale.
C'est pas le même profond de, comme les spécialités dans le décor de scène. C'est pour c'est seulement apprendre comment
ça
penser, comment créer avec les gens,
avec une équipe.
Oui, c'est ça.
Très très bien. Mais alors pourquoi vous avez choisi d'étudier le théâtre? Parce que vous avez fait un bac scientifique, j'ai vu. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le théâtre?
Ça, c'est, j'aime bien la communication entre le spectateur et le créateur. C'est parce que j'aime bien, je choisis ce métier, c'est parce que dans mon enfance, j'aime bien le film. Quand j'ai vu le film d'Américain, je suis choqué. Je pense que oui, c'est mon métier. Et après, je pense que en Chine, maintenant, le film, c'est un peu commercialité. Les histoires, pas très, je pense, pas très intéressantes pour nous. Mais dans le théâtre, c'est plus ouvert. On peut créer beaucoup d'histoires. Mais on peut aussi directement communiquer avec les spectateurs. Et ça aussi, il y a peu de budget. Donc, c'est facile pour réaliser une pièce.
Mais c'est moins cher qu'un film.
Oh, oui, c'est moins cher. C'est beaucoup moins cher. Donc, mais c'est plus communiqué. Donc, je choisis ce métier.
Et ça marche bien en Chine, le théâtre?
Oui, maintenant, à Pékin, à Shanghai, ça marche très bien. Il y a beaucoup de compagnies de théâtre qui sont vraiment lucratives. Mais il peut diffuser son pièce 4 ou 5 par an.
Ah oui, c'est pas mal.
Oui, c'est... Mais à Pékin, à Shanghai, les pièces sont pas dans le même style. Les gens qui habitent à Pékin aiment les pièces plus traditionnelles, plus comme ça. Mais les gens qui habitent à Shanghai, qui ouvrent les choses plus ouvertes, à mon avis.
C'est plus contemporain.
Oui, c'est contemporain ou les pièces occidentales. C'est bien marché en Shanghai.
Très bien. Alors, en quoi consiste ce projet théâtral franco-chinois Kung Fu Clown?
Ah oui. Avant, je suis arrivé en France. J'aime bien l'art de clown. C'est parce que c'est un art vraiment occidental, je pense. En Chine, il n'y a, je pense, il n'y a aucune personne qui peut.
Mais il n'y a pas de clown, en fait.
Oui, il n'y a pas le vrai clown. Oui. Donc, je voudrais faire l'échange culture. Donc, je pense que comment trouver une piste accessible pour les Français et les Chinois. Donc, quand j'ai vu le film Kung Fu Panda, je pense oui, peut-être c'est une inspiration pour moi. Donc, je pense que peut-être on peut combiner le Kung Fu et l'art de clown dans une histoire. Peut-être j'ai seulement une conception simple. Par exemple, je pense qu'il y a 2 ou 3 clones français qui est au chômage dans sous le crise financière maintenant.
Voilà,
après peut-être grâce à un accident il est arrivé en Chine dans un temple de Kung Fu. Il apprend le Kung Fu, après il a changé un peu la modernité, il comprend le culture chinois, mais il a plus faire les choses pour son métier comme ça.
Donc finalement, le clown français est changé par son passage par le kung-fu et la culture chinoise.
Oui, c'est parce que kung-fu n'est pas que dans un sport. C'est une mentalité,
c'est une philosophie.
De équilibre, de paix, je pense. Donc c'est totalement différent de la mentalité occidentale. Donc je pense que le clown va apprendre quelque chose, mais aussi pour les maîtrises de kung fu, il a aussi pour prendre l'art de, je pense, l'art de rire, l'art de la vie libre. C'est un échange.
Oui, d'accord.
Soit dans le pièce, c'est un échange, soit pour le spectateur, c'est un échange aussi.
Alors, vous en êtes où de ce projet? Vous l'avez écrit? Vous recherchez des comédiens ou...
Oui. Maintenant, c'est seulement conception de scénario. Après, je voudrais chercher un ou deux clones qui voudraient participer dans ce projet. Après, je voudrais les inviter en Chine pour le parcours de création. C'est parce que pour la création en Chine, c'est moins cher pour le budget, c'est moins cher. Donc pendant 2 mois de création, ça peut être diffusé en Chine. Pendant peut-être le nouvel an chinois 2010. Oui, 2010.
Oui, et puis en plus, Shanghai 2010, c'est peut-être pas mal parce qu'il me semble que vous venez de Shanghai.
Ah, c'est bien.
Voilà.
Oui, donc... après, ce que je voudrais, j'ai bien voudrais que ce pièce pour être jouée en France. C'est le français pour voir une autre moyen qui diffusait l'art de Kung Fu avec l'art de Klon.
Donc alors on va faire un appel bientôt pour rechercher 2 ou 3 clowns français ou des comédiens qui pourraient jouer le rôle d'un clown,
oui,
d'ailleurs. Hein.
Qui aiment la culture chinoise.
Qui ont envie de faire un échange avec, avec vous
ça.
Et avec votre projet et avec la Chine et,
oui.
Et du côté de Shanghai. Bon ben voilà, l'appel est lancé. On aura peut-être un téléphone pour vous contacter.
Oui, mon portable est 06 29 18 11 42.
Voilà.
Donc si quelqu'un voudrait participer dans ce projet, c'est tout à fait possible.
Eh ben oui, c'est justement le moment de lancer cet appel. Et,
oui.
Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité vous inviter pour présenter ce projet qui est justement en construction. Mais qui pourrait trouver des partenaires. Puis d'ailleurs, pourquoi pas la pluie d'oiseaux qui est juste à côté. C'est peut-être le moment de faire connaissance. Voilà. Donc Fang Xiliu, merci.
Merci.
Donc il est bientôt 13h sur le fuseau horaire de Radio Campus. Bruit de Chine sera bientôt terminé. Quand j'ai dit qu'il était 13h en France, il est donc 20h à Pékin, hein, puisque tout à l'heure il était 19h. Donc il ne faut pas oublier le décalage horaire. Alors, avant de clore cette émission, je voudrais vous inviter à ouvrir votre agenda et à y noter quelques petites choses. Alors, des expositions. Alors, peut-être on va commencer par l'exposition en région. Edith Henry, de La Pluie d'Oiseaux, voulait donner une précision pour l'exposition de Lining. Oh, attends, je vais peut-être ouvrir le micro, ce serait peut-être mieux, avec un micro ouvert, voilà.
Lin Ling montrera son travail à la ferme d'en haut à partir du 17 janvier. Donc l'inauguration de l'exposition sera à 18h30, mais toute la journée il y aura des choses, et tout le dimanche aussi, plein d'activités à la ferme d'en haut. Et elle durera jusqu'au 20... Je ne sais plus exactement la date de la fin, mais mi-février.
Bon, Edith, merci. Alors à Paris, on peut aller au musée du Montparnasse pour voir Déplacer, recréer, exposition de la mission photographique franco-chinoise, Le Voyage. La direction artistique est assurée par Hortense Soinché et Zhu Jiong. On peut avoir des informations intéressantes sur Internet, sur le site de Cross Vision. Cette exposition a lieu du 10 décembre au 25 janvier, donc au musée du Montparnasse, au 21 avenue du Maine, dans le 15e arrondissement. Et on a aussi le site internet du musée du Montparnasse pour se renseigner. Au chapitre des rencontres, nous avons le 9 janvier à 20h30, dans le cadre organisé par les Amitiés franco-chinoises, une conférence avec Marc Sokol, l'énergétique chinoise et ses symboles, à 20h30 à la maison.